Alors bonjour tout le monde, c'est Pat qui vous parle en ce beau mercredi soir, un peu sombre comme mercredi soir, mais quand même, c'est un beau mercredi soir. Évidemment, on est en novembre et la luminosité nous affecte tous un peu. En tout cas, moi ici, ça m'affecte quand même à cause du manque de lumière, hein. Parce qu'évidemment, on est sur la côte nord, ce qui fait qu'on n'est pas encore, on est en deçà de la basse côte nord. Ça veut dire que pas tellement loin d'ici, à Natashquan, il y a la grande rivière Natashquan. Et l'autre côté de la rivière, c'est on passe à l'heure des maritimes. Ben, en fait, on passe à 1 heure plus tard. Hein? Et puis, tandis que de ce côté-ci de la rivière, on n'est pas 1 heure plus tard. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que, évidemment, le soleil, lui, il ne respecte pas les fuseaux horaires. Hein? Alors, il se couche peut-être presque 1 heure plus tôt ici qu'il peut se coucher dans la grande région, là, des Bois-Francs, Québec, Montréal. Fait que ça paraît. Ça paraît en novembre, ça paraît vraiment. Alors aujourd'hui, mes amis, j'aimerais ça qu'on voit ensemble, qu'on reprenne d'où on était, hein, pour partir d'où on était, pour continuer ce beau voyage qui nous avait, où on a vu ensemble l'importance de prendre sa croix. Hein. Luc 14, 27, on avait lu un passage comme ça qui dit: Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Et on a vu comment est-ce que porter sa croix, c'était finalement de mourir à ses droits pour le bénéfice des autres. Mourir à soi-même pour le bénéfice des autres. Et c'est quelque chose qui est très important. Hein? On voit ça partout dans les Écritures. Regardez, tournez avec moi dans Romains 14, 7 à 9. En effet, nul de vous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Donc, il est Seigneur, il est vraiment Seigneur, et il est là pour dominer sur les morts et sur les vivants, régner sur les morts et sur les vivants. Et donc, soit que nous vivions, soit que nous mourions, hein, nous le faisons pour le Seigneur. Nous le faisons pour le Seigneur. Et ça, il faut que ça rentre dans notre tête. Il faut que ça rentre dans notre cœur. On ne vit pas. On ne vit plus pour nous-mêmes. On ne doit pas vivre pour nous-mêmes si on veut être disciple de Jésus-Christ. Si on ne veut pas être disciple, c'est correct. Mais si on veut être disciple de Jésus-Christ, on vit pas pour nous-mêmes. Et combien de fois, vous savez, j'ai souvent parlé par le passé de ce qu'on appelle le Zeitgeist, l'esprit du monde, l'esprit qui règne dans le monde. Et une des choses qu'on voit aujourd'hui dans le monde contemporain, c'est ce désir de se faire un nom, ce désir d'être quelqu'un, d'avoir sa carrière ou d'avoir. Et on voit les parents. Hein, dans ma génération, je suis la génération de ce qu'on appelait les enfants des pères absents. À mon époque, les pères étaient absents, les mères étaient présentes à la maison, gloire à Dieu, prenaient soin des enfants. C'était mon époque, ça, les pères absents. Il faut comprendre qu'avant ça, avant ça, la famille était dans la famille et la majorité des familles vivaient sur des terres ou vivaient ensemble et le travail se faisait, soit que le père avait une petite shop en tenant la maison, il travaillait ou ainsi de suite, avant les usines, je parle, hein, évidemment. Mais aujourd'hui, on a réglé ça. On n'est plus la génération des pères absents, on est les générations X, Y, Z et ainsi de suite des parents absents. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour régler le problème des pères absents? Ben, il fallait que tout le monde soit égaux. Fait que la mère a été absente aussi. On a donné une clé, on a mis ça autour du cou de l'enfant, puis on dit, OK, arrange-toi à cette heure. Puis aujourd'hui, en plus, c'est fantastique. On leur donne un téléphone, on leur dit, amuse-toi. On leur donne plein de choses. Ils peuvent s'occuper, s'éduquer eux-mêmes, de toutes sortes de façons. Puis on peut les parents absents. Gloire à Dieu pour ceux qui ont décidé de dire non. Non, non, moi je suis pas le monde. Je ne cherche pas mon identité. Je ne cherche pas à devenir quelqu'un. Je me contente du travail que j'ai et j'aime ma famille. Je suis avec ma famille. Je grandis avec ma famille. Gloire à Dieu pour ceux qui prennent soin de leur famille et de leurs amis. Gloire à Dieu pour ceux qui croient encore à l'église locale. Gloire à Dieu pour ceux qui croient encore à l'église locale, à la famille, aux mandats fondamentaux de la vie chrétienne. Gloire à Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On ne s'appartient plus à soi-même. On ne s'appartient plus à soi-même. Et s'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux, 2 Corinthiens 5, 15, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Même à l'époque de Paul, les gens vivaient pour eux-mêmes. Et quand on est de nouveau, on ne vit plus pour soi-même. C'est ça être disciple de Jésus-Christ. C'est ça être disciple de Jésus-Christ. Vivre pour Dieu. Il y a plein de choses attrayantes, hein, qui vont vouloir nous dire qu'on n'est pas. Il faut devenir autre chose, il faut devenir quelqu'un, il faut avoir sa carrière. Et là, c'est moi au détriment des autres. On peut écraser les gens. On peut écraser les gens pour en faire des marchepieds pour monter. Et ça, c'est le monde qui fait ça comme ça. Puis beaucoup dans le monde ne font même pas ça. Alors quand, dans l'Église de Jésus-Christ, on commence à vouloir devenir quelqu'un et qu'on oublie, et je ne vous dis pas ça à vous, là, faites-vous-en pas, je me le dis autant à moi. Je suis coupable de ça. Puis moi, ce que j'aime de prêcher l'Évangile, c'est que quand je peux prêcher la parole, et quand le message me parle autant qu'à moi qu'il peut parler à d'autres, peut-être qu'il parle seulement à moi, puis gloire à Dieu, j'ai besoin de l'entendre. J'ai besoin de l'entendre. Car je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu, Galates 2,19, afin de vivre pour Dieu. Écoutez ça. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Christ est ma vie. Ça, c'était l'espérance de l'apôtre Paul. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartiennent, purifiés par lui et zélés pour les bonnes œuvres. Zélés pour les bonnes œuvres. Zélés pour les bonnes œuvres. Écoutez, on a été choisis en Jésus-Christ. Tournez avec moi dans Éphésiens 1. Selon qu'il nous a élus, attendez un petit peu, là, je vais juste ouvrir ça un petit peu. Ouais. Selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour. Je vais tourner dans la version seconde. Je suis encore dans la Darby. Il nous a choisis, hein, avant la fondation du monde. Élus. Élus. Mais l'élection, ça n'a pas rapport au salut, hein? Ça n'a pas rapport au salut. L'élection, ça a rapport au service. Au service. Et faites-vous-en pas. Je ne pars pas sur le calvinisme, pas ce soir, non. Ça me tenterait. Je me retiens. Mais non. OK. Romains 9, Patrice. Éphésiens 1, 4. Romains 9. C'est pas mal du calvinisme, ça, là, là, que tu touches. Non, c'est pas du calvinisme. OK. OK, je vais faire quelques allusions, mais ça va être temporaire. Ça va être vite, vite, vite fait. OK. Et non seulement cela, mais aussi quant à Rebecca, lorsqu'elle conçut d'un Isaac, notre père, car avant que les enfants fussent nés, qu'ils n'eussent rien fait de bon et de mauvais, afin que le propos de Dieu selon l'élection demeura, non point sur le principe des œuvres, mais de celui qui appelle. Il lui fut dit, le plus grand sera asservi au plus petit, ou comme certaines versions vont dire, le plus grand va servir, servira le plus petit. L'élection, ce n'est pas une question de salut. L'élection, c'est une question de service. On est appelé à servir Dieu, pas pour nous. Je répète, on est appelé à servir Dieu, pas pour nous. Pas pour nous. Et si on continuait d'ailleurs dans Éphésiens, je vais juste vous dire ça, là, ça ne sera pas long, là, 2 petites secondes, là, puis je continue. Dans Éphésiens 1 au verset 11, verset. Un petit peu. Verset 13, c'est. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, donc après avoir entendu la parole de vérité, après, pas avant, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, donc après avoir entendu, on a cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit, donc après avoir cru, on a été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alors, on est, après avoir entendu, on a cru. Après avoir cru, on a été scellé du Saint-Esprit. Et après ça, on a reçu un héritage. Dans cet héritage-là, on a plein de choses, dont le fait d'être choisi en Jésus-Christ. Lui, il est l'élu. Pourquoi était-il l'élu, lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce qu'il avait besoin d'être sauvé? Non. Évidemment, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Mais pourquoi il a été élu? Il a été choisi pourquoi? Pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Même Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qui a le droit à toute adoration, il a le droit à ça, Dieu. Même Dieu, qui a droit à toute adoration, Jésus-Christ lui-même, l'Éternel, le Seigneur de l'univers. Il a été choisi. Il a été choisi pour donner sa vie pour d'autres. Hein? L'altruisme de Dieu. Une vie centrée sur l'autre. Peut-être pas Dieu ne se centre pas sur nous, mais ce que je veux dire, c'est qu'une vie qui est vraiment guérie, qui est vraiment engagée envers l'autre, en tout cas. Je devrais dire ça comme ça. Engagée envers l'autre. Et Dieu, c'est ça notre Dieu. Un Dieu qui s'est engagé envers nous. Maintenant, nous. Elle est où notre consécration? Dieu s'est consacré pour nous. Il s'est consacré. Il s'est engagé pour nous racheter, pour nous sauver au point qu'il est mort sur la croix. Il s'est consacré. Et nous, notre consécration, où est-elle? En qui ou en quoi nous consacrons-nous? Il faut répondre à cette question-là, les amis. On doit répondre à cette question-là. À qui ou à quoi sommes-nous consacrés? Est-ce que c'est à Dieu? Est-ce qu'on vit plus pour nous-mêmes pour vivre pour Dieu, comme les versets qu'on a lus là? On doit répondre à cette question-là. Il faut répondre à cette question-là. On doit y répondre. Si on veut être disciple de Jésus-Christ, il faut se dire, OK, Patrice, tu te regardes dans le miroir, là, tu dis Patrice, je me regarde là, ben là, je me vois dans l'écran, là, Patrice. Pourquoi tu fais les choses? Pourquoi? Pour qui les fais-tu? Est-ce que tu sers Dieu ou tu te sers? Puis tu te fais croire que tu sers Dieu. Est-ce que tu veux te faire un nom? Est-ce que tu veux devenir quelqu'un? Est-ce que tu es pris de cette convoitise des yeux, convoitise de la chair, qui veut devenir, qui veut à tout prix devenir quelqu'un et qui est prêt à mettre de côté, hein, l'Église locale, qui est prêt à mettre de côté le service, qui est prêt à mettre de côté tout ce que Dieu nous demande, la communion fraternelle, hein, la prière. Moi, là, il devrait avoir plus de monde le mercredi soir que le dimanche même, à cause que c'est de la prière. Dimanche, ça devrait être plein. On devrait inviter les gens à venir à l'église. Le mercredi soir, ça devrait être plein. Il ne devrait pas avoir moins de monde le mercredi qu'il y en a le dimanche, là. Ça devrait être plein. C'est vrai qu'il peut y avoir des saisons dans nos vies. Hein? Il peut y avoir des saisons où est-ce que, bon, là, cette saison-ci, là, j'ai pas besoin d'y aller. Mais si t'es pas dans une saison comme ça, c'est pas que j'ai pas besoin d'y aller, c'est que je ne peux pas y aller. C'est pas une question de besoin, c'est une question de pouvoir. Je peux pas y aller pour toutes sortes de raisons. Le travail, la famille, l'école, peu importe. Okay? Mais ça devrait quand même être une priorité. Une priorité. Trouver des façons d'être là le mercredi, en tout cas, surtout le dimanche, mais de faire son possible pour être là. Parce que c'est pas une question de choses à faire. Hey, c'est la clé. Les disciples se rassemblaient n'importe tout le temps. Tout le temps ensemble. Ils partageaient la parole, ils s'édifiaient, la fraction du pain. C'était tout le temps comme ça. Nous, aujourd'hui, on est tellement autonomes et indépendants qu'on pense qu'on peut vivre une vie chrétienne toute seule. Mais c'est pas vrai. La Bible ne connaît rien d'une vie chrétienne autonome. D'une vie chrétienne indépendante, devrais-je dire. Autonome, oui, indépendante, non. Et donc, on doit apprendre, hein, à sonder, à se sonder. Tu vas me dire, oui, mais Patrice, il ne faut pas devenir introspectif. Non, mais il y a comme une balance quand même, hein. Sans être introspectif à toutes les secondes, je dois quand même obéir à l'Écriture. Puis qu'est-ce qu'elle dit, l'Écriture? Ben, regardons ce qu'elle dit par rapport à ça, l'Écriture. En Sophonie 2.1, ça dit, rentrez en vous-même et examinez-vous. Rentrez en vous-même et examinez-vous. On doit faire cet exercice de s'examiner soi-même. 2 Corinthiens 13,5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Alors, examinez-vous et éprouvez-vous. On doit regarder, demander à Dieu de nous, de sonder nos cœurs. Encore une fois, dans Éphésiens 5,10, examiner ce qui est agréable au Seigneur. Pourquoi examiner? Il faut s'examiner et examiner ce qui est agréable au Seigneur. C'est pour ça qu'il faut examiner toutes choses dans 1 Thessaloniciens 5,21. Psaume 26,2, sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Psaume 139, 23, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Comment ça se poursuit le verset? Regardez bien ça, c'est fantastique ce passage-là. Un petit peu, là. Ça, c'était au verset 23. Hein? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, verset 24, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Combien de fois j'ai fait ce psaume-là, cette prière pour moi-même? Combien de fois? Sonde mon cœur. Laisse-moi pas m'égarer de loin de tes sentiers. Ne me laisse pas m'égarer. Mais aujourd'hui, il y a tellement de choses qui nous bombardent qu'on doit devenir quelqu'un. À tout prix quelqu'un. On peut pas céder à ça. C'est ce fameux Zeitgeist encore. L'esprit du siècle. On ne peut pas se laisser envahir par l'esprit du siècle. Alors, il va dire. Le psalmiste va dire, je réfléchis à mes voies. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je dirige mes pieds vers tes préceptes. Lamentation 3,40, recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Agé 1, 5 puis 1, 7. Considérez attentivement vos voies. Considérez attentivement vos voies. Encore une fois, que chacun donc s'éprouve soi-même dans Corinthiens 11, 28. Galates 4, que chacun examine ses propres œuvres. Continuellement dans les Écritures, continuellement dans les Écritures, continuellement dans les Écritures, on nous appelle à s'examiner soi-même, à se sonder, à réfléchir sur nos voies, à réfléchir sur nos pas, à marcher, à marcher avec circonspection. Mes amis, écoutez, c'est ça que ça veut dire prendre sa croix puis marcher, puis vivre pour Dieu dans un siècle qui est contre Dieu. Quelqu'un va dire, oui, mais je ne sais pas, là, je sais pas ce qui se passe à l'Église en ce moment, ça va plus ou moins bien, je ne sais pas, je sais pas ce qui va se passer, alors je ne suis pas sûr si je veux m'impliquer. Écoute, tu ne t'impliques pas. Pour qui tu t'impliques? Est-ce que tu t'impliques parce que tu as peur, tu crains l'échec? Alors tu ne sers pas Dieu. Tu te préserves de l'échec. Parce que Ésaïe, Ézéchiel, tous ces gars-là, ils ont vécu, ils ont servi Dieu. Les Ézéchiel, là, ou des Ésaïe qui finissent leur vie sciés en deux dans un tronc d'arbre. Ils se cachent dans un tronc d'arbre puis ils se font scier en deux. Ils étaient voués à l'échec, ces gens-là? Ils ont cessé de servir Dieu? Non. Non, 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 non. Tournez avec moi dans Hébreux 11. Tournez avec moi dans Hébreux 11. C'est tellement, tellement important. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Ça, ça va bien. Les premiers, c'est pas pire, là. C'est assez agréable. Abraham, il part, Isaac, hein? C'est bien quand même, tu sais. Puis là, après ça, il y en a, tu sais, c'est par la foi qu'ils sont tous morts, verset 13, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont salués, ils ont vu et salué de loin. Qui dit que Dieu n'aurait pas ça pour nous aujourd'hui? De vivre une vie qui prépare demain, pour qu'on ne puisse que saluer, hein, ce qu'il y a en réserve. Il ne faut pas cesser de marcher. Il ne faut pas cesser de marcher et de servir Dieu. C'est de prendre le point de vue humain sur les choses, plutôt que le point de vue divin sur les choses. Attendez un petit peu, là. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob. Tu sais, c'est des belles choses quand même comme ça, là. Hein? C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, mais Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Hein? Moïse disait, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'est par la foi que Moïse il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Ça aussi, c'est glorieux, là. Les murailles tombent. C'est fantastique. C'est par la foi, verset 33, qu'il vainquait des royaumes. Ça aussi, je suis prêt à ça. Exercer la justice, c'est parfait. Obtenir les promesses, excellent. Fermer la gueule aux lions, ça aussi, je suis prêt à faire ça. Je ne me tente pas de mettre mon bras dans la gueule du lion, mais de fermer la gueule du lion, ça, je suis volontaire. Ils éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres? Oh non, là, ça ne me tente plus, par exemple. OK, j'arrête là. On change de livre, d'accord? On change de livre. Non? On continue à aller? Pas sûr. On continue à lire. D'accord. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent la moquerie et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas, sans nous, à la perfection. Ouais. 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 Moi, je trouve que c'est sobre. C'est très sobre. Ça rend sobre de lire ce passage-là. Ça rend sobre parce que ça nous rappelle que le but, c'est pas nous. On n'est pas le but, hein? On n'est pas le nombril du monde. Moi, je ne suis pas le nombril du monde, en tout cas. Puis, comme je vous le dis, moi, ces genres de messages-là, autant quand je sens que je dois prêcher un message comme ça, quand je sens que Dieu semble mettre ça sur mon cœur, c'est pas les messages que je trippe nécessairement à préparer. Parce que ça me met devant un miroir. Hein? Ça me met devant un miroir, ça me met devant le fait que je dois premièrement me parler à moi. Et je dois m'examiner moi-même. Je dois faire l'exercice. Je dois prier, comme je disais tantôt, nombre de fois que j'ai prié la prière du psaume 139. Mais ça doit être fait. Si on veut être disciple de Jésus-Christ, on doit faire ça. On doit être prêt à payer le prix coûte que coûte de la marche. Dieu a tout donné pour m'élever. À combien plus forte raison, moi, qui suis pauvre puis que j'ai été enrichi par Dieu, à combien plus forte raison, je dois apprendre à marcher avec lui. Prendre sa croix et le servir. Prendre sa croix. Est-ce que j'ai des projets? Est-ce que j'ai des projets que, et la seule raison que j'ai ce projet-là, c'est de me faire un nom et c'est pas de servir Dieu? Est-ce que je deviens, insatisfait de ma vie, puis que je cherche juste de nouveaux thrills, de nouvelles sensations, parce que je suis insatisfait de ce que Dieu fait dans ma vie? Peut-être qu'on doit se sonder, on doit retourner à nous-mêmes, on doit prier à Dieu de nous sonder comme ça, puis de nous conduire sur la voie de l'éternité. Parce que c'est pas lui qui manque à sa promesse. C'est pas lui qui faillit à ce qu'il dit. La vie chrétienne, elle est capotante, elle est excitante. On doit marcher avec lui. Et on ne doit pas vivre pour nous-mêmes, parce qu'il a tout racheté. Alors, je vous aime beaucoup. Comme je vous ai dit, cette prédication-là, je sentais que je devais la partager. Je me la fais premièrement à moi-même. Hein? C'est à moi que je parle avant tout. Et si, par la grâce de Dieu, ça a pu bénéficier, ça a pu aider d'autres, ben, je peux seulement dire gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.